la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous avons au moins un auditeur suisse.
On espère même qu'il y en a 3 ou 4.
Comme vous le savez, Radio Margeride est captable sur Internet. Et l'échange que nous avons eu il y a quelques jours nous a donné l'idée de faire une émission aujourd'hui sur le jazz en Suisse.
C'est bien ça, hein, la mondialisation, par Internet.
D'ici que nous ayons un auditeur chinois...
Rien n'est impossible.
Ou australien. Enfin, maintenant, c'est possible. C'est possible.
On pourrait un peu comparer les tout débuts du jazz suisse au début du jazz français. Quelques morceaux qui arrivaient, quelques musiciens qui arrivaient aussi. Et puis un public jeune qui y est conquis.
Et aussitôt, des amateurs se détachent. Ils forment des hot clubs, comme en France. Et nous avons par exemple très bien connu le fondateur du hot club de Zurich, qui s'appelait Johnny Simon, et qui était lui-même critique de jazz, sorte de musicologue, également un peu historien, et fréquentant beaucoup les musiciens noirs, exactement comme Hugues Panassier le faisait en France de son côté.
Il ne faut pas oublier que c'est quand même pas si simple. Les transports, c'est quand même très éloigné, c'est très long. Faut prendre le bateau, après le train. Mais il y a toujours eu, chez les musiciens américains, ils nous l'ont toujours tous dit, un amour de l'Europe qui n'avait pas vis-à-vis d'eux les mêmes problèmes gravissimes de racisme.
Et Johnny Simon a raconté dans un texte assez célèbre comment, tout jeune, il a invité chez lui 2 musiciens américains qui étaient, je crois, Bill Coleman et Kaiser Marshall, et les a présentés à sa grand-mère, qui était une vieille dame très digne, mais très intelligente, et il a raconté la conversation très courtoise et très intéressante qu'il y a eu entre ces gens.
Je précise quand même qu'il faut parler anglais, américain, parce que là, évidemment, ces musiciens ne parlaient pas du tout français.
Non, mais enfin,
ni suisse.
Alors nous avons surtout connaissance, nous, du jazz en Suisse romande. Hein.
Suisse romande, c'est la Suisse qui parle français.
C'est la Suisse qui cause français, oui, oui, parfaitement.
Bravo.
Parfaitement. Alors naturellement, il n'y a pas que les amateurs, il y a des musiciens, il y a des orchestres qui se mettent à l'école de ce qui leur arrive d'Amérique. Mais nous n'avons pas dans notre discothèque quoi que ce soit d'antérieur à 1941, qui est la date à laquelle quelques jeunes gens formés en hot club ont invité Hugues Panassier à une tournée de conférences sur le jazz en Suisse.
Et en est sorti le premier disque que nous allons vous passer.
Car Hugues Panassier n'était pas que musicologue, il était aussi clarinettiste amateur et, comme vous allez voir, d'un niveau tout à fait convenable. Comme d'ailleurs l'orchestre suisse qui l'accompagne. Ça se passait à Seefeld et ils ont appelé le morceau
Seefeld Stomp. Thank you.
Ce disque, qui est également la seule trace d'Hugues Panassian en train de jouer de la clarinette, nous montre finalement qu'il avait bien profité de son professeur Mesereau, dont il a d'ailleurs été, je crois, non pas l'unique élève, mais je crois qu'il a eu deux élèves. Il y a eu Hugues Panassian et Jean Poinceau, surnommé Little Mez, pour des raisons tout autant évidentes. Comme vous voyez, les jeunes gens des hot clubs suisses avaient à l'époque soulevé des montagnes pour qu'un Français puisse passer la frontière et venir en 1941 faire des conférences. Et naturellement, en Suisse, il y a eu de grands collectionneurs comme Étienne Perret, des critiques et historiens comme Johnny Simon, dont on a parlé tout à l'heure, de très grands connaisseurs et spécialistes comme Guy de Maulle, qui possède tout et qui sait tout sur Sidney Bechet, de très grands managers comme Willy Leiser, qui est spécialisé dans le gospel, naturellement, des musiciens, puisque c'est eux qui font la musique. Il faut quand même le rappeler, s'il n'y a pas de musiciens, il n'y aurait pas de hot club. Et il y a un grand musicien.
Oui, c'est le pianiste Henri Schex. Et Henri Schex, c'est vraiment un très très grand pianiste.
Pour moi, c'est le musicien en Suisse qui a surclassé tous ses contemporains helvétiques.
Et pourtant, il ne figure pas dans les dictionnaires du jazz. C'est quand même étonnant.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu ouvres le dictionnaire du jazz, le plus récent, le fameux pavé. Eh bien, Henri Schex, il est totalement ignoré. Et comme vous allez pouvoir entendre, on ne devrait pas. Dans les dictionnaires du jazz, il y a beaucoup de gens que nous, personnellement, nous aurions tendance à trouver inutiles. Eh bien, Henri Schex aurait été un précieux apport.
D'autant qu'il était extrêmement apprécié des musiciens américains. On peut quand même dire que s'il est apprécié des musiciens américains, que c'est leur musique, il trouve que celui-là, il parle leur langage musical.
Henri Schex, effectivement, a enregistré avec une foultitude de gens. Si on faisait la liste, on aurait presque un annuaire, un gotha du jazz noir américain. Mais il se produisait aussi en trio. Nous l'avons entendu en trio. Voici deux morceaux qui s'appellent
920 Special.
Le spécial de 9h20. Ça, c'est encore une astuce de studio.
Et alors, l'autre nom, il est assez rigolo. All Got Chillin' Got Rhythm.
C'est un morceau qui a fait partie du répertoire de Duke Ellington et qui est une astuce sur un gospel qui s'appelle Tous les enfants de Dieu ont des ailes. Ben là, vous allez voir, dans le deuxième de ces morceaux.
Tous les enfants de Dieu, ben, ils ont le rythme.
Ainsi soit-il. Thank you. quel pianiste dont le jeu dénote une influence de Duke Ellington, d'Art et tout, mais puis une dextérité, une inspiration. Il swing, hein, c'est Henry Shakes.
Il swing et c'est très léger en même temps.
Ah oui, oui, j'ai toujours trouvé ce type absolument formidable. En Suisse, il y a eu aussi des organisateurs de festivals.
Et de grands festivals, parce que comme vous le savez, la Suisse n'est pas un pays vraiment pauvre.
Quoique, quand on parle aux Suisses, quelquefois,
oui,
on a l'impression...
tout le monde se plaint toujours.
Voilà, on est un peu dans les mythologies, alors on ne sait pas très bien. Mais toujours est-il qu'il y a eu de grands festivals, des gens qui ont eu les moyens d'organiser des choses. Et alors, comme en Suisse, on a tendance aussi, comme en France, à embrayer facilement sur le jazz ceci, le jazz cela, la fusion, musique du monde, enfin tout le diable et son train sous le nom de jazz. Il y a, par exemple, un grand festival à Montreux qui a complètement dérivé dans ce sens-là. En revanche, il y a des festivals de jazz, nous dirons de jazz-jazz, comme Ascona, organisé par Nicolas Gillier, comme Bienne, qui a été longtemps organisé par André Rassi, c'est arrêté il y a quelques années. Il y a d'autres choses comme ça. Et la Suisse romande est parsemée de petits festivals très sympathiques.
Mais où ils reçoivent beaucoup de musiciens. Hein. C'est pas des festivals au rabais. Hein.
Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est un endroit où les orchestres français aiment beaucoup aller parce qu'ils sont très bien reçus. Et il y a un public. Il faut attirer l'attention de nos auditeurs sur la qualité du public suisse.
Très connaisseur.
Voilà. Le public suisse, il est connaisseur et réceptif. Et ça, c'est quand même important. Et naturellement, il y a des orchestres. Et là, nous allons parler un peu des périodes plus récentes. Le premier orchestre suisse dont moi j'ai souvenir s'appelait le Dry Throat Five.
Ce qui veut dire le quintet des gosiers secs. Ah ah.
Oui, oui, oui. À la tête de cet orchestre étonnant, il y avait un multi-instrumentisme dont d'ailleurs la profession est de réparer, d'entretenir et de fabriquer des instruments de musique. Alors lui, il joue de tout. Il s'appelle René Hagmann. Et c'est une vraie figure du jazz suisse. Ce René Hagmann, c'est un vrai phénomène. Et il a monté ce petit orchestre, s'inspirant un peu des formations de Jimmy Noon, mais c'est un orchestre qui était très spectaculaire. Si vous trouvez des vidéos du Dry Throat Five quelque part, vous n'ennuierez pas 5 minutes.
Hein. C'était plein de gags, mais pas des gros gags épais. Non, 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 c'était plein d'humour.
Oui, et ça allait très vite. C'est-à-dire que les gags collaient totalement à la musique d'une manière qui, finalement, la faisait encore plus swinguer.
Au fond, c'était un orchestre de showman.
Oui, c'est assez vrai. En tout cas, ils sont bien amusés et je peux te dire que fréquenter cet orchestre n'engendrait pas particulièrement la mélancolie. Nous allons les entendre dans deux morceaux tirés du répertoire de Jimmy Noon, justement, qui les a beaucoup inspirés. Ça a été enregistré au Jazz Ben Bowl, le fameux Jazz Ben Bowl de l'automne parisien, en 1984. Et nous aurons...
I Need Loving.
Je veux de l'amour.
Oui. Oh, sister, and that hot.
Ah oui, ça, c'est un cheval de bataille de l'époque.
qui m'a dourdé, pas vous dire de l'autre dans le pan d'un 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 d'un. Si m'a dourdé l'autre pour des bêtes pensées, qui te dévêve, bêve, bob du terrain, par les bâtés, qui m'a voulu le nom.
Thank you.
orchestre qui voyage beaucoup et qui d'ailleurs invite assez régulièrement René Hagman, qu'on a entendu dans les disques précédents, s'appelle...
Oh, un nom un peu particulier, hein. Yerba Buena. Alors on se dit, est-ce que c'est... du mexicain ou...
Ben, c'est du mexicain, je pense.
Et ben voilà.
En fait, parce que c'est un orchestre au départ. Le nom Yerba Buena était celui d'un orchestre de la côte ouest des États-Unis qui faisait dans le jazz traditionnel comme les Suisses que nous entendons dans cette émission.
Et comme son nom ne l'indique pas.
Ça, c'est vrai. Et alors, le vrai nom de l'orchestre, c'est le Swiss Yerba Buena Creole Rice Orchestra.
C'est pour ça qu'on ne vous a pas dit tout d'un coup.
C'est un orchestre que nous connaissons un peu et c'est la formule de l'orchestre qui joue des arrangements à une dizaine de musiciens. Alors c'est un orchestre suisse, mais très régulièrement on peut entendre Jean-François Bonnel, le musicien français, célèbre saxo-clarinettiste.
Mais nous, on a remarqué quelque chose d'un peu particulier, hein. C'est Messieurs Claire, le père, qui s'appelle Béa, c'est joli comme nom, hein. Et le fils Fabien, et il joue de la trompette.
Ah, tous les deux, ils sont côte à côte dans l'orchestre. Et je peux te dire que ce Béa Claire, c'est un sacré client. Nous avons eu l'occasion de buffer avec cet orchestre. Il est impressionnant. C'est d'ailleurs lui qu'on va entendre dans les morceaux qui suivent. Et il y a aussi un tromboniste d'une certaine épaisseur qui a devant nous déclaré au public « Mesdames et messieurs, je sais que je suis d'un calibre respectable, mais n'oubliez jamais une chose, c'est que quand les gros seront devenus maigres, les maigres seront morts depuis longtemps. »
Ça va faire plaisir aux maigres, ça.
Voici un morceau qui s'appelle Sing, Sing, Sing.
Tendez bien l'oreille, parce qu'il y a des danseurs à claquettes.
Et ils avaient invité un trio de danseurs à claquettes. Ça s'appelle Sing, 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 et ce sera suivi d'un autre morceau qui s'appelle...
Do something, c'est-à-dire fais quelque chose.
Thank you.
Oui, ben ça, c'est un orchestre qui swing. Hein.
Ah oui, ça, c'est certain. Et le Yerba Buena, c'est quand même un orchestre qui s'expatrie facilement. Hein. Je pense qu'ils ont même dû aller jouer aux États-Unis. Et ils sont très réputés.
Un autre orchestre, lui, bien connu, c'est le Swiss Dixie Stompers.
C'est un orchestre qui a été fondé et qui a été d'une très très longue durée par un trompettiste nommé André Racine, qui était directeur pendant plus de 30 ans d'un formidable festival qui se passait à Bienne. Alors Bienne, c'est pas très loin de Berne, c'est entre Berne et Neuchâtel, et je peux te dire que c'était un festival étonnant. C'était dans une sorte de palais des congrès, avec un immense escalier central, et il y avait un tas de salles, et il y avait 6 orchestres à la fois en permanence.
Oui, vous vous étonnez peut-être en disant comment il y avait 6 orchestres qui jouaient ensemble, mais ça devait être une horrible cacophonie. Eh bien, pas du tout, c'était superbement organisé, parce que les orchestres étaient dans des salles, toutes les unes à côté des autres, mais en réalité, ils ne se gênaient pas. Et les gens pouvaient aller d'un orchestre à l'autre, comme ils le désiraient, et évidemment, ça c'est l'idéal.
Et même, il y avait une piscine.
Pour y mettre les musiciens ou les instruments, ou comment ?
Non, il y avait une piscine avec un radeau sponsorisé par une banque suisse, et il y avait aussi des spectacles. Je peux te dire que les Dumouziez Stompers, qui ont été à Bienne deux fois, eh bien, là, ils ont été menés en bateau, vraiment. Nous étions sur un radeau en train de jouer pour les gens qui étaient en face.
Quand même, ils n'hésitent devant rien, ces Suisses.
Non, ça c'est vrai. Et cet orchestre, qui est composé de 6 musiciens et qui a été d'une très grande stabilité, il pratiquait le style qu'on appelle All-Star, c'est-à-dire un peu calqué sur l'orchestre de Louis Armstrong des années 50, avec des solos, et un répertoire qui était très Nouvelle-Orléans, parce qu'ils aiment beaucoup le Nouvelle-Orléans, ces gens. Et on va donc entendre 2 morceaux totalement du répertoire Nouvelle-Orléans.
Ah ben, le premier, c'est « Elle là-bas !» Alors ça, c'est en créole. C'est hyper connu, bien sûr, mais c'est amusant parce qu'une grande partie des paroles est en créole Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire une sorte de français.
C'est un patois louisianais.
Patoisé, quoi.
Et André Racine, qui chante ces paroles, eh bien, il joue le jeu. Hein, il joue le jeu. Alors, ça raconte une sorte de festin suivi d'une sorte d'indigestion. Et le deuxième morceau s'appelle Frankie and Johnny, c'est un grand standard de ce répertoire. Et tout ça s'était enregistré pendant une tournée américaine de l'orchestre, à San Diego pour l'un et à la Nouvelle-Orléans pour l'autre, parce que le métier d'André Racine, ce n'est pas d'être trompettiste de jazz ou organisateur de festival, il est patron d'une agence de voyage. Alors évidemment, ça facilite les tournées.
Eh oui, hein, c'est commode ça.
Et là-bas, comment ça va?
Comment ça va?
Et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas, je ris.
Comment ça va?
Tu es cochon, tu es lapin, et moi manger pain. Je fais jambon, je mange trop, et ça fait moi malade. Et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
comment ça va?
Comment ça va?
Et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
comment ça va?
Comment ça va?
I'm a little bit of 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 comment ça va?
pour en revenir à Hellaba, vous avez peut-être remarqué que ce musicien suisse, pur sucre, n'est-ce pas ? Eh bien, il a l'accent de là-bas. Tout simplement parce qu'un musicien, ça a de l'oreille. Et il prend très facilement les accents des autres.
Surtout pour chanter un morceau comme celui-là.
Naturellement.
Nous allons terminer l'émission avec un jeune musicien, un des meilleurs musiciens traditionnels d'Europe, et même à la clarinette, un des deux ou trois tout meilleurs. Hein, vraiment, il est tout à fait exceptionnel. Il s'appelle...
Thomas Winteler.
Thomas Winteler, d'abord, c'est un très gentil garçon.
Ce qui ne gâte rien.
Oui, absolument. C'est un bon copain. C'est pour ça qu'on le passe à la radio aujourd'hui.
Non, mais pas seulement pour ça.
Pas seulement pour ça. Et son modèle à la clarinette, dont il s'inspire, hein, c'est pas un copieur, c'est une inspiration, c'est le grand Johnny Notes.
Et là, nous allons vous passer un morceau qui a été enregistré à La Roquebrue. Le Cantal, La Roquebrue, quand même. D'accord, en Suisse, ils ont des moyens, ils font des beaux festivals, mais nous, dans le Cantal, on en a un qui est superbe.
En pleine crise, en plus, nous faisons ça. Hein, en pleine
oui,
crise.
Oui.
Jean-Paul Amouroux, il a quand même réussi à fonder une manifestation qui, 15 ans après, fait le plein tous les soirs, et attire beaucoup de monde pendant la journée, car ce que nous allons entendre en premier, là, ça a été enregistré pendant la journée. Il y avait un petit orchestre avec Thomas Winteler à la clarinette, et était venu en invité une dame totalement atypique, et d'ailleurs par-dessus le marché, enceinte jusqu'aux dents.
Qui s'appelait Gunhild Carling.
C'est une Suédoise, elle vient d'une famille de gens du cirque. Et c'est une famille absolument incroyable sur le plan de la dextérité musicale. Je dois dire, Gunhild Carling, c'est très impressionnant.
Cette dame, vous pensez naturellement qu'elle chantait. Ah non, pas du tout. Elle souffle dans quelque chose. Soit du cornet, soit s'il vous plaît du trombone. Là, c'était du cornet.
Oui, son instrument, le premier instrument, je pense, c'est le trombone. Mais là, elle a pris le cornet, effectivement. Et on joue, donc, pour commencer, avec Thomas Winteler à la clarinette, formidable, un morceau du répertoire du Hot Five de Louis Armstrong qui s'appelle « Once in a While ». Puis après, on se retrouve au festival de Whitley Bay où il y a un intermède. Thomas Winteler est juste en trio avec sa rythmique. Et le morceau s'appelle
« Little Bits ».
Et on nous terminerons au même endroit d'ailleurs avec Texas Moaner, qui est un grand classique, un blues de la grande époque du blues instrumental.
Et là, il intervient au soprano.
Oui, on entend la clarinette au début et à la fin, et au milieu, il joue du soprano, et très très bien. Parce que Texas Moaner est un morceau qu'a beaucoup illustré Sidney Bechet. Et naturellement, avant de conclure cette émission avec ces trois morceaux, nous pensons à notre auditeur suisse, à notre ami Eric. Bonne écoute, mon cher Eric.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.